Bienvenue à nouveau. Hein. Bienvenue. J'aimerais juste lire cette écriture-là dans Genèse chapitre 12, merci, verset 1. Il est dit, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors, nous avons lu ce verset et nous sommes parmi ceux qui bénissent Israël. Et quand l'Éternel Dieu a dit à Abraham, eh bien, Abraham, c'était une seule personne que le Seigneur, l'Éternel, a retirée des nations. Et à travers cet homme-là, il s'est suscité une tribu. À travers ces tribus, il s'est suscité tout un peuple dont vous faites partie. Et à travers ce peuple, l'Éternel se révèle aux nations. Donc c'est un peuple qui est à part. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent même choisir, c'est quelque chose que les nations doivent accepter. Israël est un peuple à part. Le peuple juif est un peuple sur lequel il y a le nom de Dieu. Et parce que c'est à travers ce peuple que l'Éternel se révèle aux nations, eh bien il y a des compensations. Et les compensations, entre autres, c'est la terre. La terre que Dieu a mise à part, une portion de terre que Dieu a mise à part sur cette planète et qui est donnée au peuple juif. Alors, le Seigneur a dit, eh bien, je referai de toi une grande nation. À travers les siècles, il y a eu des tentatives que cette nation ne devienne pas grande, que ce peuple ne devienne pas grande. Et notamment avec ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est appelé la Shoah, cette tragédie, cette catastrophe. Et aujourd'hui, eh bien, nous voulons laisser la place à Madame Kabeli, qui est une survivante de cette période dramatique, et puis Monsieur Sosnowski, qui a un parcours différent et qui nous parlera du sien également. Hein, donc, encore, au nom de l'Église, la bonne nouvelle, merci beaucoup d'être parmi nous et nous vous écoutons. Vous voulez tenir votre micro ou...
Je l'ai là, il est là.
Vous l'avez ? Un petit peu plus près, peut-être ?
Allô ? Non ? Vous attendez ?
Ça y est.
Parfait. Ah, ben ils attendent. Ça va. Excuse-moi. Bon, comme vous savez déjà, j'ai 93 ans et j'essaye toujours de témoigner parce que d'ici maximum une dizaine d'années, il n'y aura plus de témoins vivants. Et c'est pour ça que c'est mon devoir d'aller et parler du camp. J'aurais bien voulu, avant tout, je voudrais que vous me posiez des questions, parce que, vous savez, si je commence à raconter, il y en a beaucoup trop. Mais je peux vous dire que quand je suis déportée de Grèce, de Salonique, et j'avais 17 ans, et c'est là, c'est-à-dire que, avant ça, il y avait les Italiens, ils ont déclaré la guerre à la Grèce en 40. Et puis, naturellement, les Grecs, ils avançaient, ils avançaient. Et puis, il y a Mussolini qui a dit à Hitler, Il dit, alors là, ça va plus, les Grecs, ils vont bientôt être à Rome. Et c'était en 1940. Ça a duré la guerre 6 mois. Et déjà, la Grèce est un pays très pauvre, naturellement. Il y avait des riches, des gens qui parlaient plusieurs langues, et puis il y avait beaucoup de pauvreté aussi. Et voilà que Hitler, il a dit à Mussolini, oh, ne t'inquiète pas, on va essayer de les étouffer. Et c'est comme ça que l'Allemagne a déclaré la guerre à la Grèce. Naturellement, la Grèce n'était pas équipée, elle n'avait pas du tout des armes et puis des munitions comme les Allemands. Eh bien, ils ont déclaré la guerre à la Grèce. Et puis, en une semaine de temps, ils ont pris la Grèce. Et par malheur, il y avait aussi les Allemands. Ça s'appelait l'aviation, ça s'appelait Stukas. C'était des avions qui descendaient très bas et qui mitraillaient n'importe qui parce qu'on n'avait pas d'abri. On ne savait pas si c'était la fin des avions ou le commencement. Alors il y a eu énormément de morts. Bon, au bout d'une semaine, alors les Allemands, ils ont rentré en Grèce.
Rapprochez un tout petit peu le micro.
Ça va.
Si vous préférez, je
s'asseoir
à côté de vous et vous tenir le micro.
Ça va, hein?
Oui, devant vous le micro.
Ah, encore? Oui. Et bien, c'est comme ça qu'on était sur la domination allemande. Et naturellement...
Je vais vous le tenir peut-être.
Non. Ah, merci. Et c'est comme ça que ça c'était en 40 et la famine, elle était, les gens ils mouraient parce qu'on avait 200 grammes de pain soi-disant par jour et c'était pas du pain, c'était de la avec du maïs, c'était comme si on allait comme les flancs. Et plein d'eau, et puis c'est tout. Alors, il y avait énormément de gens, de bébés, tout ça. Et puis, ils disaient, il y avait que les morts, on doit les mettre sur les trottoirs. Il n'y avait plus de cérémonies, il n'y avait plus de rabbins, ni de papes, ni de rien. Et puis il venait un chariot, il prenait les morts et puis les jetait quelque part. Et après, il y a eu énormément aussi de gens qui mouraient enflés par le maïs. Alors c'était la famine. Et moi, comme j'étais enfant, j'ai commencé à aller dans les villages. Je prenais du savon, de la quinine, parce qu'en Grèce, on mourait aussi de la malaria. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du trafic. Je n'ai pas honte à le dire, il fallait se débrouiller, et heureusement que je pouvais passer partout, et puis on montait dans les trains, pas à l'intérieur, à l'extérieur, parce que on ne pouvait pas payer le billet. Et après, on jetait les sacs par terre. Et puis, j'allais les vendre. Et c'est comme ça que ma mère, elle pouvait quand même faire le pain et puis donner un peu à la famille. Voilà. Ça, je vous dis, c'était déjà le commencement de l'évacuation des Allemands. Et on ne savait rien encore. Et ils nous ont laissés tranquillement, comme ça, pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, il y a eu un article comme quoi les hommes de l'âge de 17 ans jusqu'à 45 ans, ils devaient se présenter à la place de la liberté. cette place de la liberté, il y avait énormément des hôtels. Alors, c'était un dimanche et c'était au mois de juillet. Vous savez, comme ici, le climat, il faut dire que c'est à peu près comme ici. Et puis les gens, ils se sont présentés, les jeunes, ils se sont présentés. C'était à 7 heures du matin. Et le soleil qui tapait. Bon, moi, j'étais quand même toujours curieuse. J'ai dit à ma mère, je vais aller voir. Et je me suis mis en face de, cette place. Et puis, je regardais comment ça se passait. Et puis, à force, les gens, ils étaient fatigués. Le soleil, il y en avait qui avaient un journal, ils le mettaient sur la tête. Ils restaient debout des heures et des heures. Enfin, vers 11 heures, il y a des SS qui sont venus avec les chiens. Ils se sont tous relevés. Ils ont fait un cours de gymnastique. Et après, ils les ont battus pour qu'ils se relèvent. Après, ils ont pris les noms et l'adresse. Et c'est comme ça qu'on était terrorisés. Et après, deux semaines après, mon frère aîné, il était appelé. Comme il était mécanicien de voiture, on l'a mis à la gare. On l'a mis à la gare pour réparer les machines de train. Et quant à l'autre, une semaine après, on l'a mis, ils sont venus le chercher, et il était parti, ça s'appelait, à la montagne de la Chaux. C'était hors de Salonique. Et voilà. Maintenant, j'aurais bien voulu que vous me posiez des questions, parce que je ne sais pas par où commencer.
Oui, s'il vous plaît. Ah oui. En quelle année le convoi est parti et dans quel camp avez-vous été amené et comment ça se passait dans les camps?
Alors, il y avait à Salonique un genre de ghetto. Les riches américains, ils ont construit des petites baraques et ces ghettos-là, c'était pas des ghettos, mais enfin, c'était tout de suite au rail des chemins de fer. D'abord, ils ont pris ces gens qui habitaient dedans, ils les ont commencé à les envoyer à Auschwitz et après, ils ont commencé à installer des miradors, et en plus il y avait entouré de fils électriques, et c'était très vite passé, parce que dans ces ghettos, une fois qu'il était vide, ils ramassaient des gens qui habitaient en dehors de Salonique, ils les faisaient descendre là, et dès que le train il allait à Auschwitz, au retour, il y avait déjà ces gens-là qui les reprenaient. Alors ces camps, ils se multipliaient comme ça. Une fois le train arrivé, ils étaient prêts, les autres, à partir. Et quand il est venu notre tour, ils sont venus nous chercher, il y avait, dans cet endroit-là, il n'y avait plus rien. Il y avait de la paille par terre. Et puis un jour, mon frère aîné, il est parti un peu dehors. Et il y avait l'autre frère qui était avec nous. Ils sont venus, les kamikazes allemands, c'est-à-dire habillés en noir. Et puis un genre de collier en argent ou métal. C'était les kamikazes. Alors, ils ont pris mon frère, mon deuxième frère, et dans tout, partout, ils allaient partout, ils ont pris une centaine de jeunes, et puis, bon, le soir même, on est monté dans le train. Donc, on n'avait rien, ni du pain, ni de l'eau. J'en avais juste un petit quelque chose à la main, parce qu'ils nous ont dit de ne pas prendre des affaires, que là-bas, on aura tout ce qu'il faut. Et bon, et puis le train, ça fait que ça a duré 6 jours pour arriver en Pologne. Ici, le français, le premier film qu'ils ont fait, ça s'appelait « Nuit et brouillard ». C'est-à-dire, chaque train qui arrivait à Auschwitz, c'était entre 4h et 5h du matin. Comme ça, ce n'était pas ni jour, ni nuit. À ce moment-là, les trains, comme c'était des trains à bestiaux, on était entassés les uns sur les autres, et il fallait sauter pour descendre. Bien sûr, les personnes âgées, c'était impossible, ils tombaient. Et puis après, il y a d'autres qui tombaient sur eux. Enfin, c'était des cris, et puis les chiens aboyaient. Et puis il y a quelqu'un qui a commencé à dire en grec, toute personne, de vieillards, de mamans, de bébés, qui prennent la route, la rue tout droit, là-bas, ils vont trouver des camions avec la bâche de la Croix-Rouge. Bon, alors il y a des personnes qui se sont mises à la file et puis qui sont parties pour aller dans ce train-là. En attendant, ils ont dit les hommes d'un côté et les femmes des autres, de l'autre côté. Et comme ça, on s'est mis et puis disait toi, ah, comme ça, dehors. C'est-à-dire, ils choisissaient, parce que les Allemands, ils avaient besoin de la main-d'œuvre, parce qu'il y avait de tout. À Auschwitz, il y avait des commandos, les terrassements, il y avait la mine de sel, il y avait l'Union, que je travaillais, c'était pour les munitions. Et il y avait les hôpitaux, soi-disant des hôpitaux, que ce n'était pas des hôpitaux, il n'y avait même pas de médecins. On le disait hôpital. Et c'est comme ça que, une fois que c'était calmé, on nous a mis à part. Et puis, on est parti à pied. Il y avait 3 kilomètres de la gare. La gare, c'était une petite gare. Alors, on arrive, c'était déjà, on commence à voir des baraquements, et ils nous ont rentrés tout de suite dans une baraque. Et alors, ils ont dit, tout ce qu'ils ont, des bijoux, des bagues, des boucles d'oreilles, tout ce qu'ils ont, de l'argent, de l'or, il faut les mettre là. Ils ont passé avec un panier et puis tout le monde sait qu'ils avaient caché. Ils les ont mis dans le panier. Et après, ils sont venus 3-4 femmes allemandes. Et c'est là que j'ai les tatouages. J'ai un tatouage. Et puis, ils ont demandé les noms. Et depuis que j'ai donné mon nom, et après, je n'ai jamais entendu mon nom. C'était avec les numéros. S'ils avaient besoin, ils affichaient les numéros, et puis on devait les savoir par cœur en allemand et en polonais. Et ça commençait déjà. On a vu que c'était pas. Alors il y avait des personnes qui hurlaient quand ils mettaient les tatouages. Plus tu criais, plus le numéro il était grand. Et moi, comme je m'appelle de nom de jeune fille, c'est Florentin. Alors quand il est venu mon tour, je n'ai rien dit et j'ai un tatouage qui est vraiment discret. J'ai rien dit. Je serrais mes dents. Et ils nous ont mis tout de suite, ils nous ont pris, ils nous ont emmenés au bain, soi-disant. dehors, ils nous ont coupé les cheveux partout, parce qu'il y avait partout, on s'est mis tout nu, on a rentré à la douche, et les SS, les femmes, ils mettaient de l'eau chaude bouillante, on commençait à crier, et après ils s'amusaient, ils mettaient de l'eau froide, on n'avait pas ni de savon, ni rien, et c'est comme ça, après, une fois, on n'avait même pas de quoi s'essuyer, et on a passé dans une petite salle, ils nous ont donné des habits de soldats anglais. C'était des pantalons et puis une veste. Et les pantalons, on ne savait même pas comment les tenir, tellement il y en avait qui étaient grands et d'autres qui étaient petits. Ils ont commencé à faire échanger les petits contre les grands et les grands contre les petits. Hein. Et ils nous ont fait rentrer dans une baraque. Et là, comme les Allemands, ils avaient très peur de la malaria, parce qu'en Grèce, c'était un pays qui y avait des moustiques, les eaux, c'était pas des eaux déposées, c'était pas l'hygiène. Comme... Et puis moi, personnellement, j'allais à l'école quand j'étais enfant, j'allais à l'école 3 jours, et 3 jours, c'était la malaria. Je ne sais pas comment vous dire cette affaire de malaria. C'est que vous venez, vous tremblez, vous avez froid. Et après, la fièvre, elle monte à 40, 41. Et puis, c'était ça. Ou on pouvait vivre, ou on mourait par la malaria. Ils ont voulu tester, parce qu'ils avaient peur, le convoi de Grèce. Ils nous ont laissé 2 semaines à l'intérieur du bloc. On était debout, on ne devait pas rester au lit. Et puis, comme en Grèce, surtout Salonique, si vous voyez à la carte, elle est entourée de pays, les Slaves, la Yougoslavie, la Serbie, tous ces pays sont entourés à Salonique. Et moi, comme gamine, je savais déjà, je comprenais déjà les Slaves. Et puis, je vois le premier jour qu'on se levait le soir par la fenêtre. Il y avait énormément de jeunes filles qui venaient. Elles étaient dans un état lamentable. Nous, on était déjà à la menta, mais eux, ils étaient déjà dans les camps. Et ils demandaient un morceau de pain, si on avait, mais le premier jour, on avait pitié. C'était des fenêtres avec des barreaux. Bon, on commençait à donner un petit peu, mais le troisième jour, on avait déjà faim, nous aussi, parce que le repas, c'était les soirs. Le matin, c'était soi-disant... un café, que c'était la couleur du café. Et puis, le soir, c'était la soupe et puis un morceau de pain. Soit il y avait parfois de la margarine, soit un morceau de saucisson. Bon, alors à ce moment-là, on n'avait plus, c'est nous, on avait faim aussi. Et c'est là que je me suis dit, il faut te débrouiller, il ne faut pas tomber comme les autres. Et il y avait une petite Polonaise, et comme je parlais déjà presque un peu le slave, je lui ai pris le balai de la main. C'était de la terre. Un balai comme des morceaux de tronc d'arbre. Et je l'ai pris, je l'ai balayé, et après je lui ai dit, est-ce que tu as quelque chose à laver? Elle me dit oui. J'ai pris, elle me dit, voilà, ça, j'ai à laver. J'ai pris, je l'ai lavé. Alors elle m'a dit comme ça. Au moment quand il vient la soupe, ne vient pas la première, parce que quand elle venait la soupe, On était tous affamés et tout le monde voulait aller à la première pour prendre la soupe. Il me dit, vous n'avez qu'à venir la dernière. Et avec ça, j'avais ma cousine avec moi, qu'elle était deux années plus âgée que moi. Mais c'était une bourgeoise. Son père, il travaillait dans l'import-export. Tandis que moi, j'étais orpheline à l'âge de 4 ans. Et ma mère, elle avait 3 enfants. Il fallait qu'elle lutte pour nous élever. Et puis, c'est comme ça. J'ai commencé à ne pas avoir faim. On se mettait avec ma cousine dans un coin et on mangeait. Au bout du 4e jour, elle me dit, vous savez, est-ce que vous voyez la fumée en face? Je lui ai dit, oui, bien sûr, je le vois. Et puis j'ai dit, stink, ça veut dire en allemand, ça sent mauvais. Elle me dit, oui, mais c'est là qui sont vos parents. Je dis, quoi? Alors je fais un appel au bloc. Tout le monde me traitait de folle, et puis c'est pas vrai, c'est des mensonges. Je dis, bon, tant pis, je dis rien. Après, c'était... Et au moment de se passer les 15 jours, ils ont ouvert les portes, ils ont tous sorti, qui ne voulaient pas. Il y avait pas mal de chefs de bloc qui cherchaient du personnel, parce que dans les camps, au bout maximum, les personnes qui travaillaient dans tous ces travaux-là, ils restaient pas plus que 3 mois. 3 mois, c'était maximum. Alors, ils avaient toujours un renouvellement de la main-d'œuvre. Et bien, c'est comme ça que moi, on m'a demandé, il y avait un médecin SS, le commando du camp, qui me dit, qu'est-ce que tu travailles? Je dis, moi, je parlais déjà, parce qu'il y avait déjà 2 ans que les Allemands, ils étaient à Salonique, et j'ai commencé à parler l'allemand. Je dis, moi, je n'ai pas de métier, moi, j'étais à l'école. Bon, alors elle a dit à la chef de bloc, ces deux-là, vous les gardez, c'est moi qui vais les donner du travail. Alors, ils ont tous... Pour les sortir de bloc, il fallait les taper. Et puis chaque chef de bloc, il demandait, moi j'ai besoin de 15 personnes, l'autre il demandait 20 personnes. Et c'est comme ça qu'ils étaient tous partis avec le chef de bloc pour aller travailler. Et au moment qu'on était dans les blocs, il y a les SS qui viennent, les médecins SS, qui il me prend ma cousine d'abord avec et moi. Alors il m'amène dans un bloc, l'hôpital soi-disant polonais. Il me laisse là et puis malheureusement ma cousine, elle était dans un bloc de la diarrhée. Elle a attrapé vite l'infection. Et moi, j'étais dans ces blocs avec des Polonaises. Et bien sûr, je n'étais pas maltraitée. On ne m'a jamais appelée juif. On m'a appelée Grichinka, ça veut dire en polonais grec. Et je faisais la commission parce que ces gens-là, c'était des droits communs. Ils avaient une cantine à part. Et moi, on me donnait des tickets, elle me disait, tu vas acheter ça, et ça, et ça. Et je faisais, le soir, je courais à la cantine de ces personnes-là, et je disais à ma cousine, tu restes là, dehors. Je prenais une cuillère, je ramassais 2 cuillères d'un côté, 2 cuillères de l'autre. Et comme je faisais ça toute la soirée, on avait une gamelle de soupe que c'était pas du tout la même que la soupe du camp. Bon, alors, je suis restée dans ces camps un moment, dans ces blocs un moment, et puis après, je suis tombée avec le typhus. Et on m'a enlevée de bloc, on m'a emmenée dans un bloc de typhus. C'était affreux. Les gens, ils mouraient comme des mouches. Et les médecins quand il m'a vu que j'étais là, il a dit à la bloc, cette femme-là, cet enfant-là, il ne faut pas la marquer pour aller au four crématoire. Soit elle va mourir d'une mort normale, mais il ne faut jamais l'inscrire parce qu'il fallait renouveler ce bloc-là. Et tous les trois jours, il venait les camions, il vidait les blocs, et puis il venait d'autres. Et puis, c'est comme ça que déjà j'étais protégée par cette SS.
Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui vous a donné la force, de survivre à toutes ces années? À quoi pensiez-vous?
La force était de ne pas penser à mourir. La force était de vivre au jour le jour. Mais comme on ne peut pas vivre avec tout ce qu'il y avait dans les camps, c'est-à-dire une ration de soupe le soir, un morceau de pain, comme je vous ai dit, mais on ne peut pas vivre avec ça. Alors il fallait que je trouve comment je vais me défendre, comment je pourrais trouver des choses à part ça. Alors souvent, j'allais à la cantine des Allemands, où je marchais pas debout, je me traînais à ras par terre et j'arrivais là où il y avait les déchets de la cuisine allemande. C'est-à-dire, eux, ils faisaient cuire les os, c'est comme si c'était de la farine. Ils étaient cuits et quand on les touchait, ils étaient déjà décomposés, c'était comme de la farine. Heureusement qu'il n'y avait pas le mirador en face. Parce que s'il y avait le mirador, ça c'est sabotage. Je ne pouvais pas y aller des côtés des Allemands. Et c'est comme ça. Presque tous les soirs, j'allais où ils jetaient tout ça. Et je prenais ma gamelle. Parce que la gamelle, on l'avait toujours attachée avec nous. Et puis c'était la gamelle et puis la tasse de pourboire. Je remplissais ça comme une de la farine. Et encore, je passais de l'autre côté. Et avec ça, je pouvais aller, parce que malheureusement, avec tout ça, il y avait une rue qu'on faisait des marchés noirs. Parce qu'il y avait les commandos au Canada. Ces commandos au Canada, c'était les habits qui venaient des gens. Ils les déposaient dans ces blocs-là et ils triaient, et s'appelaient les commandos au Canada. Ils triaient les affaires pour envoyer en Allemagne. Et eux, ils avaient de quoi manger. Et puis, naturellement, à chaque commando, à chaque personne qui venait au camp, il y avait toujours quelques olives, un peu de fromage, des choses, et on faisait du troc. Bon, j'avais ma cousine et moi, et puis le reste, je le faisais. Je donnais un peu de cette farine des os, et puis on n'avait pas très faim, je peux dire. Et en plus, il y avait toujours. Et cette rue-là, elle était renommée la rue du marché noir. Et de temps en temps, ils venaient les Allemandes avec ils venaient courir après les gens. Et les gens, ils avaient peur et ils faisaient tomber tout par terre. Et c'est comme ça, cette rue-là, une fois que partaient les SS, on commençait encore à vendre, à donner. C'est comme il fallait vivre au jour le jour. Et puis en plus, il y avait le marché des cigarettes. Alors il y a quelqu'un qui venait dans les blocs, qui disait tu veux des cigarettes, c'était le Mahorka, c'était le tabac le plus mauvais tabac russe. Mais avec une cigarette, moi, je donnais facilement mon demi-pain parce que je le fumais le soir pour me coucher. C'était comme si j'avais bu un litre de vin ou de l'alcool. Je dormais. Je pensais pas à la famine. Et parfois, il venait et me disait, ah, je lui disais en polonais, niet, oggi no. Non, nie me chleba. Je n'ai pas du pain. Elle insistait que je prenne. J'ai dit non, parce qu'après, si on ne tenait pas parole, c'était avec un couteau qui venait vous donner. Et c'est comme ça que j'étais toujours.
Nous allons entendre aussi M. Sosnowski. Avant de passer le micro, la parole à M. Sosnowski. Combien de membres de votre famille ont été déportés?
Mon nombre le plus proche, je dis, de sœurs, de frères, je n'aimais pas les cousins. Il y avait déjà une vingtaine de personnes, seulement les proches.
Les parce plus que proches. Mère,
ils étaient 11 enfants et mariés avec des enfants. Et puis, bon, on est sortis, mon frère et moi.
Deux personnes sur une vingtaine des plus proches.
Les plus proches, oui.
D'accord.
Et puis, mon frère, on l'a appris quand il est rentré dans le camp. Il était destiné pour lui faire des expériences. Au bout de 3 mois, excusez-moi, on lui a commencé déjà à enlever un testicule. C'était le commencement de son corps, oui, qui devait les donner pour faire n'importe quoi. Mm-hmm. Que je suis après.
D'accord. Donc deux personnes qui sont rescapées.
Oui.
D'accord.
Et l'autre frère, on l'a jamais vu. Mm-hmm. Non, on a cherché, mais ma fille, elle a été à Salonique, elle a été chercher aux archives. Non, on l'a pas trouvé.
D'accord. Merci beaucoup pour avoir partagé ces
préoccupations. C'est pas, vous savez, excusez-moi, comme je travaillais à l'hôpital, c'était pas des cadavres. C'est pour moi, je n'ai plus peur de rien. Parce que des cadavres, je sortais tous les soirs. Et il venait les Sonderkommando, ces gens-là qui travaillaient au four crématoire, ils venaient les chercher et ils les amenaient pour. C'était comme une pile de bois, comme si vous avez une pile de bois, si vous vous mettez des haut, c'était. On était deux pour les sortir. Et puis, parfois, ils n'en avaient plus conscience, il y avait des rats, c'est pas des rats qui les mangeaient. Le peu qu'ils avaient. Et ils n'étaient pas conscients. Ils n'étaient pas conscients.
Ah ouais.
Je vous dis, mes yeux, ils sont pleins de ces mauvais souvenirs.
Bien sûr, bien sûr. Combien d'années êtes-vous resté?
26 mois.
26 mois.
J'ai fait la marche de la mort.
Ah, vous l'avez faite?
Oui. Et là, il y avait presque la moitié de personnes qui sont mortes. Ouais. Parce qu'il faisait moins 12, moins 13. Et puis parfois, on couchait dans les étables. Et après, c'était un train ouvert pour aller en Allemagne. J'étais à Ravensbrück. Voilà, c'était une période comme ça. Et je ne sais pas, la force. C'est la force qu'il faut. Je disais, non, tu vas, un jour, peut-être, on sera libéré. En attendant, il faut vivre au jour le jour. Il ne faut pas y penser pour demain.
C'est ça. Entendre ce témoignage est tellement important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ce que l'on appelle de fake news, il y a le négationnisme. Et entendre de la bouche de quelqu'un, c'est dire, j'ai entendu. Bien sûr, je ferai tout ce qu'il m'est possible pour que jamais plus ça ne se repasse. Mais j'ai entendu qu'il n'y ait pas une personne qui me dise « Oh, ça c'est quelque chose qui a été créé ». C'est... Aucun ici et tous ceux qui entendent cela par Internet ne pourront pas dire cela. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et nous sommes à nouveau très très touchés que vous ayez accepté de venir. Et on va entendre le parcours de M. Sosnowski.
Hein? L'enfant caché.
L'enfant caché. Oui, alors je vous en prie, monsieur, si vous voulez,
vous permettez.
Allez-y, allez-y.
Merci.
Oui, c'est arrivé qu'il y ait des parents qui ont réussi à... Mais cela veut dire une séparation, se séparer des enfants. Hein. Je vous en prie. Alors, si vous voulez bien tenir juste devant vous votre micro.
Je suis natif du nord de la France, mais je suis venu ici à l'âge de 18 mois, donc en 1933. Mes parents étaient polonais, ils se sont connus en France, dans le nord de la France. Mon père travaillait chez le frère de ma mère, et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Mon père est parti de la Pologne, disons qu'il a déserté l'armée polonaise à cause de l'antisémitisme. Et ma mère est venue en France parce qu'elle avait perdu sa mère. Elle était dans un petit village et il n'y avait pas beaucoup de travail. Mon grand-père n'a pas voulu venir en France parce qu'étant très pratiquant, ici, on enterrait les morts dans un cercueil et en Pologne, comme en Israël, à même de la terre. Et lui, c'est là, ça, il n'a pas voulu. Il est resté là-bas en Pologne. Et malheureusement, lorsque les Allemands ont envahi la Pologne, bon, ils l'ont pris, ils s'est échappé de la Pologne, ils s'est échappé, je veux dire, des Allemands. Il est revenu chez lui, il s'est mis dans le lit et il est mort, il s'est laissé mourir. Il est, voilà. Et bon, mes parents se sont connus, comme je vous ai dit, en France. Et... En 1933, ils sont venus à Nice. Et moi, je suis né à Lens-Pas-de-Calais, comme je vous dis. Et de là-bas, ils sont venus à Nice. Mon père s'est installé à son compte, il était tailleur. Et ma mère, femme d'épouse, elle m'a élevé. Et mon frère est né en 1934 ici. Bon. Jusque à la déclaration de la guerre, on était très bien ici. Et ensuite, les Italiens, ils ont envahi les Alpes-Maritimes. Et là, ça va aller. Les Juifs, on était tous très bien. Jusqu'en 1943, lorsque les Italiens sont partis, c'est les Allemands qui sont venus. Et là, c'était pas pareil. Alors, ils déportaient tous les Juifs. Mes parents n'ont pas voulu nous garder parce qu'à l'époque, en 1943, j'avais 12 ans et mon frère 9 ans. Et comme tous les enfants, on était un peu turbulents. Ils ont dit, si on le garde à la maison, on va se faire remarquer et on va être dénoncé automatiquement. Donc, mes parents nous ont... envoyé par un mouvement de résistance israélite de Nice, il nous a envoyé en Suisse. Je ne sais pas comment ma mère l'a connu, comment mes parents ont connu ce mouvement, mais ce mouvement... Alors, là, on est allé en vieille ville, je sais que c'était en vieille ville, ma mère et moi, et là, elle s'est renseignée et on lui a dit, écoutez, vu que votre mari... travaille là en magasin, donc il peut payer, ça vous coûtera 10 000 anciens francs, le prix que d'une dénonciation pour enfants. Parce que quand on dénonçait des adultes, c'était 15 000 francs qu'ils recevaient, et les enfants 10 000 francs. alors vous serez obligé de payer ça. Mais si vous ne voulez pas ou quoi, on sauvera vos enfants quand même. Ma mère a dit non, non, on va payer pour les deux enfants. Bon, ça c'était... Et alors ils ont donné, par exemple, aujourd'hui, et ils ont dit, demain, trouvez-vous à 11h au coin de l'avenue Thiers, et à l'époque ça s'appelait l'avenue de la Victoire, l'avenue Médecin. Alors, vous accompagnerez vos enfants ici, il y aura un jeune homme qui attendra, vous embrasserez vos enfants et vous repartirez sans vous retourner. Et les enfants, ça sera pareil le lendemain. Alors, et vous leur donnerez juste un slip de rechange et un tricot de peau. Un paquet chacun, c'est tout. Et on ne peut pas s'encombrer. Mais pas, ma mère, elle nous a accompagnés, on l'a embrassée et... ensuite, elle est partie sans se retourner et le monsieur, enfin, le passeur, il nous a dit, vous pareil, ne vous retournez pas. Il nous a emmenés à la gare. Là, il y avait encore une quinzaine de jeunes. On était là et on a pris le train comme si nous étions une colonie de vacances. Il y avait 3 ou 4 moniteurs, enfin, j'appelle ça les moniteurs, et on a voyagé jusqu'à Annecy. Donc, le lendemain, nous sommes arrivés à Annecy. Là, on est allé dans un home d'enfants pour la journée et on s'est restauré. Bon, dans le train. En 43, lorsque les Allemands sont arrivés. Et arrivé bon, à Annecy, on nous a dit, arrivé le soir vers 11h, quelque chose comme ça, tous de Nice. On nous a fait sortir de ce dôme d'enfants et on nous a dit maintenant, on va partir de là. Et on a pris un autre train, on est allé jusqu'à Annemasse. Arrivé à Annemasse, nous sommes descendus du train, nous sommes allés dans un genre d'hangar et on nous a réunis toute la quinzaine qu'on était. Alors c'était le plus jeune avait 5 ans et le plus âgé, normalement, 15 ans, parce que si on avait plus de 15 ans, la Suisse a refoulé au-delà de 15 ans. Alors disons 15 ans. Et on nous a dit, écoutez-nous, quoi qu'il arrive, vous ne devez pas pleurer, même si vous avez peur, pas crier, pas pleurer. Vous nous suivrez. Il y avait 3 passeurs. Alors on est allé, bon, mon frère et moi je tenais mon frère par la main, qui avait 9 ans, et j'étais toujours derrière le passeur avec un copain, toujours derrière. Alors, on est passé, bon, on a coupé, le passeur a coupé un barbelé, un fil barbelé, et on a commencé à marcher. Et à un moment donné, on a entendu comme des coups de feu, vous voyez, le passeur, ils nous ont fait signe de courir. Alors, je ne vous dis pas, moi, je tenais mon frère par la main. Il y avait un ruisseau avec un petit bac dessus. Il y en a qui sont tombés dans l'eau, d'autres, mais personne n'a crié. On était là. Mon frère a manqué de tomber. Je l'ai rattrapé. On est tombé par terre. Il a perdu sa casquette. À un moment donné, il voulait la chercher. Il m'a dit, ma casquette. J'ai dit, laisse tomber. Laisse. Mais papa, qu'est-ce qu'il va dire? Rien du tout. Là, on a couru, on est allé jusqu'à un autre hangar, et on était tous à coucou là-bas. Et les deux moniteurs, ils ont dit à l'autre, on va aller aux nouvelles et on vous appellera. Très bien. Je ne peux pas vous dire combien de temps on est resté, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, enfin, c'était en pleine nuit, c'était très long. Au bout d'un moment... Les deux sont revenus, ils ont dit, la voie est libre, on va y aller. Alors, moi, toujours derrière le passeur, il a coupé un deuxième barbelé. Je l'ai suivi, comme ça, ça devait être le No Man's Land. Enfin, on a marché. Et puis ensuite, il y avait un troisième barbelé où c'était la Suisse. Mais je ne savais pas que c'était la Suisse encore. Il a coupé les barbelés. Et il nous a dit, continuez, je viendrai vous rejoindre après. Alors on a marché, et d'un seul coup, on entend « halt là ». Avec l'accent allemand, c'était les soldats suisses. Mais ils étaient habillés comme les soldats allemands, et ils avaient une petite croix, la croix suisse. Mais vous savez, à 1h, 2h du matin, on ne reconnaît pas bien. Et en plus de ça, il y avait les autres qui étaient derrière moi. Ils savaient qu'on était en Suisse, et moi non. Alors ils ont dit, nous sommes des Juifs, nous sommes des Juifs. Et moi, dans ma tête, que j'avais 12 ans, j'ai dit, mais ils sont fous de se dénoncer comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon frère par la... Enfin, je l'avais toujours par la main, et j'ai laissé passer les autres. J'ai voulu m'échapper. Alors, et au moment où je vais pour me lancer, il y a un soldat suisse avec son fusil entre les deux épaules. « Halt là !» Ça fait un drôle d'effet, croyez-moi. Hein, comme ça. Alors j'ai dit adieu. Là, on est foutu. Et il nous a emmenés à la douane. Je ne savais pas que c'était la douane. Là, il a commencé à nous interroger. Moi, cette peur et tout, j'ai eu mal au ventre. J'ai demandé aux soldats d'aller aux toilettes. Ils m'ont emmené derrière un arbre à 20 mètres. Je regardais le soldat comme pour lui dire, ne t'imagine pas que je vais m'échapper sans mon frère. Enfin, j'ai fait mes besoins. Je suis retourné avec le soldat et j'ai dû m'endormir de fatigue. Je me suis réveillé au bout d'un moment. Soldat suisse qui me tenait, deux soldats qui me tenaient par les bras, et l'autre, il essayait de me faire boire du chocolat au lait. Là, j'ai compris que j'étais en Suisse. Ça allait déjà mieux. Bon, on nous a interrogés, et puis ensuite, ils nous ont emmenés dans un camp. On était mélangés dans un camp où on était mélangés. Mais pour aller dans un camp, on était dans une fourgonnette. Et on était tellement serrés que j'avais le plus jeune sur mes genoux, 5 ans, et mon frère à côté, enfin, on va là-bas. Là, on est resté peut-être une semaine. Et ensuite, on nous a emmenés dans un camp d'internement où on était mélangés avec les adultes. Bon, on n'était pas trop mal. On mangeait, enfin, on buvait. Ça pouvait aller. Et puis un jour, il passe le directeur du camp. J'avais 12 ans, hein, je vous le répète. Donc, j'étais naïf. Et je demande au directeur du camp, j'étais avec mon copain et mon frère, combien de temps elle met une lettre par la Croix-Rouge pour la France. Alors, il me dit, 3 mois. Je me retourne vers le copain, je lui dis, écoute, dans 3 mois, la guerre, elle sera finie, on n'écrit pas, on fera la surprise à nos parents, on reviendra comme ça, on fera la surprise à nos parents. Mon copain, il me dit, d'accord. Donc, on n'a pas écrit. De ce camp, on est allé dans un troisième camp, et là, bon, mon frère et moi, on nous a envoyés dans un home d'enfants en Suisse allemande. Et mon collègue, qui était fils unique, on l'a envoyé dans une famille. On était en Suisse allemande, si vous connaissez Saint-Gallen, un petit patelin, un petit village à côté, Speicher. On va là-bas, bien. On n'était pas trop mal. Et au bout d'une quinzaine de jours, il vient un autre groupe d'enfants de ce gang de Varambé où on était. Et ils nous disent, vous connaissez la nouvelle? Fait non, quoi, la guerre est finie. Nous, c'était que ça qui... Il dit non, le directeur du camp de Varambé, c'était un espion allemand. Toutes les lettres qu'on écrivait, il les faisait passer, et comme ça, on dénonçait nos parents. Et c'est pour ça que je vous dis, j'avais 12 ans, et mon copain, qui avait 1 ou 2 ans de plus que moi, était aussi naïf que moi. Bon, alors, là-bas, on est resté à Saint-Gallen. Je ne peux pas dire qu'on était bien parce que, malheureusement, j'ai perdu un copain là-bas d'une angine. mal soigné. Il était dans une pièce où la fenêtre était cassée en plein mois de septembre-octobre. Et croyez-moi que là-bas, au mois de septembre-octobre, c'est pas comme ici en ce moment. Il faisait froid. Bon, on était là-bas et malheureusement, il est décédé. Là-bas, on est resté à peu près 14 ou 15 mois. Alors, on était comme ça et on ne mangeait pas trop bien. Mais enfin, par rapport à Annette, on était vraiment des rois.
Expliquez ce qui s'est passé avec le groupe d'enfants qui est passé après toi.
Alors, après moi, il y a un groupe d'enfants qui est passé, mais malheureusement, ils se sont fait déchiqueter par les chiens. C'est le troisième groupe qui nous l'a raconté, qui est venu là-bas. C'est pour ça que je dis, moi j'ai eu énormément de chance. Vous voyez? Et bon, de ce camp, on est allé, de ce homme d'enfant, on est allé dans un autre homme d'enfant, à Chézières, en Suisse française. Là, on n'était pas trop mal, mais c'était pas tout à fait ça parce que il est venu un groupe d'enfants qui était, c'était la jeunesse hitlérienne quand les Allemands commençaient à partir et eux ils sont venus. Alors je vous dis pas, il y avait des bagarres et des bagarres entre nous. Et de là, quand la guerre, quand la Nice a été libérée, je suis retourné en France avec mon frère. Et fatalité avec mon copain, et c'est là que je lui ai raconté l'histoire du directeur du camp, que c'était un espion. Je vous dis, j'ai eu beaucoup de chance, comme par rapport à Annette. Bon, mes parents, ils sont restés à Nice. Tantôt, ils allaient chez des gens, tantôt, comme ils étaient ailleurs, alors. Il y en avait qui le connaissaient, il lui demandait de faire un costume. Alors il allait travailler chez les gens et il faisait durer naturellement le plus possible. Mais en plus de ça, on avait de très bons voisins qui n'ont pas dénoncé. Par contre, moi, j'avais un copain qui allait en classe avec moi et dont le père était bien copain avec mon père. Et mon père lui dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire, je ne devrais pas te le dire parce qu'on m'a dit de ne rien dire. Je connais un moyen pour faire partir ton fils en Suisse. Je ne sais pas comment, mais il arrivera impeccable. Alors le gars, il lui dit, écoute, toi tu es polonais, et donc toi tu risques, moi je suis français. Il s'appelait Pérez. 4 jours après, on est venu le rechercher en classe. C'était, alors je ne vous dis pas, parce qu'au début, on ne prenait que les étrangers et après les Français. Mais on avait eu confiance, voilà. Maintenant, si vous avez quelques questions, parce que on va poser, enfin, comme ça.
Alors, ça fait la deuxième fois que j'entends le témoignage d'un enfant caché. J'ai entendu le témoignage de Madame Propper, qui, elle, a été cachée dans les Pyrénées. C'est ça, hein, c'était dans les Pyrénées. Et là, en Suisse. Et qu'est-ce que vous auriez à nous dire, à nous, pour aujourd'hui, nous qui ne sommes pas juifs? Qu'est-ce que vous auriez à nous dire, nous, qu'est-ce que l'on peut faire, nous, pour face à...
De respecter les religions et de faire attention à l'antisémitisme. Parce que quoi qu'on dise, il y a toujours des allusions. Et d'éviter de faire des allusions, des mauvaises blagues. Parce que ça nous touche. Voilà, il y en a qui ont essayé de faire des blagues sur des camps de concentration. Tout de suite, je leur ai dit de se taire ou alors on était plus copains. parce que ça nous touche énormément. Là, je vais vous faire voir, j'ai des documents pour vous faire voir.
Qu'est-ce que vous auriez à nous dire, Madame Cabelli?
Presque la même chose que...
Là, le micro. Le micro, le micro.
Ah oui. Je dis la même chose que Joseph, mais c'est un poison. Moi, je trouve que... Parce que je peux vous dire encore que je suis encore un enfant de l'Inquisition. Je parle l'espagnol depuis 1492, depuis qu'ils sont partis d'Espagne. Et il y a tout le temps, c'est nous les fautifs, c'est nous qu'on a tué les juifs. Et encore, parce que quand j'étais en Grèce, c'était un antisémitisme, parce que c'était des orthodoxes. L'enfant qui était déjà dans le ventre, il était déjà antisémite. Et on a souffert beaucoup. C'est pour ça que dès que c'était la libération des camps, j'ai dit, moi, je ne rentre pas à Salonique, en Grèce. Et comme j'avais des amis françaises qui ont travaillé à l'usine, tu viens avec nous, Annette, tu verras. J'ai dit, des papiers. On n'a pas besoin de papiers. Et on est arrivé à Strasbourg. Ils nous ont demandé où vous habitez. J'ai dit, j'habite dans les 11e, à la rue Popincourt. Passez. Voilà.
D'accord, merci.
Oui,
peut-être ce qu'on peut faire, c'est à la fin. On va les laisser là et les gens vont pouvoir les consulter. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire, qu'on les laisse là. Et.
Il y a des lettres de dénonciation. 400 tonnes
de lettres de dénonciation à Vincennes. Alors, on parle de la race juive, mais c'est faux de parler comme cela, parce qu'une race a certaines caractéristiques. Or, les juifs, vous avez des juifs qui ressemblent à des Scandinaves, d'autres qui ressemblent à des Marocains, d'autres qui ressemblent à des Éthiopiens, d'autres qui ressemblent à des Chinois. Donc, il n'y a pas la race juive. C'est faux de... Mais c'est le peuple juif, voilà. Donc, ça, c'est une distinction qu'il est bon de connaître. Ça, vous voulez qu'on le fasse passer? Ceci, d'accord, tu veux... Tiens, regarde, Jean-Marc. On va le faire passer. Ça, Marc, tu veux nous aider? En tout cas, nous apprécions que vous soyez venu nous parler.
Ça, c'est une petite goutte d'eau.
Eh oui.
Parce que les Allemands, les expériences sur les nains, sur les
jumeaux.
Les jumeaux, ça, je peux témoigner pour ça.
Vous aviez une jumelle?
Oui, je les ai vues. Je les ai vues. Et puis aussi les gitans.
Oui.
Ils étaient à côté du camp. Les gitans, enfin, c'est, on ne peut pas...
C'est imaginer.
C'est très difficile. C'est ça qu'on est endurci, on essaye de raconter les malheurs qu'ils ont faits.
Ça, on peut le mettre là aussi, sinon. Arrêtez. Recensement des Juifs. Alors, nous, en tant que chrétiens, d'après nos textes, d'abord, d'après le texte que l'on a lu tout à l'heure dans le livre de la Genèse, la Bible dit clairement que Dieu est avec ce peuple. Il sait susciter lui-même ce peuple. Et la Bible dit, celui qui bénit Israël est béni, et celui qui le maudit est maudit. À vrai dire, l'Espagne ne s'est pas remise de ce qui s'est passé en 1492, et l'Allemagne, tout de suite après, a été divisée. Alors, aujourd'hui, c'est, il faut dire, la génération qui est venue, qui est née en Allemagne, donc les Allemands, la génération allemande, née après la guerre ou pendant la guerre, a eu beaucoup de difficultés, d'abord parce qu'on leur a caché ce qui s'était passé. Pendant très longtemps, les livres d'école ne parlaient même pas de ce qui s'était passé. Tout de suite, il y a eu des moult tentatives pour effacer les traces. Il y a des arbres qui ont été plantés pour que, à la place des camps, eh bien, il y a des forêts, des bâtiments qui ont été détruits. Néanmoins, enfin, on a été à Auschwitz, ma sœur et moi, avec des amis, on a été à Auschwitz en début d'année. On voit qu'il y a une tentative d'effacer. Néanmoins, aujourd'hui, il y a trop de preuves. C'était 10 fois plus grand, c'est ça. Et Auschwitz et Birkenau étaient. C'était 40 km carrés. Aujourd'hui, c'est séparé. C'était un seul camp, c'est ça. Aujourd'hui, on va en bus, on prend une navette pour aller d'un camp à l'autre. Alors, en tout cas, pour nous, chrétiens, nous avons... Alors, vous dites, oui, mais il y a des chrétiens qui ont persécuté les Juifs. Pour nous, c'est très clair. Les Juifs n'ont pas tué Jésus. Pour nous, c'est très, très, très clair. Nous n'accusons pas de cela. Et également... nous devons être attentifs aux signes antisémites. On en entend au travail, on en entend ici et là, et nous devons prendre position. Parce que pour nous, nos textes disent que nous avons une dette de reconnaissance envers le peuple juif. Et c'est une dette de reconnaissance que nous devons payer, pas quand tout va bien, mais quand on entend une mauvaise blague, le mot de juif utilisé à tort ou comme une insulte, eh bien, les jeunes enfants doivent apprendre que non, on a du respect pour le peuple juif. Et quand il est question de prendre position où nous sommes, eh bien, nous devons prendre position. Parce que le regard de Dieu est... sur ceux qui prennent position ou ceux qui se laissent emporter. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se laissent emporter avec tout ce qui se passe dans ce monde. Donc, nous aimons Israël. Nous aimons Israël et nous soutenons le peuple juif. Et donc, il était précieux d'entendre... merci encore. Merci encore. Est-ce que tu vas prendre des fleurs? Alors nous aimerions vous offrir un bouquet de fleurs pour chacun de vous. Et puis, puisque nous sommes bien conscients que c'est le début de l'année pour vous, nous vous souhaitons Shana Tova. À vous, à Shana Tova, Yaël, à vous, à vos bien-aimés, à votre communauté. Et comme nous avons compris que, si vous voulez bien, venir. Et nous avons compris que, voilà, Annette. Oh. Il est un peu lourd, donc je pense que quelqu'un devra
Yaël, va se charger,
vous aider. C'est un peu lourd, hein, Yaël.
Oui, merci.
Mais si, bien sûr, vous aussi. Et puis, en si vous voulez bien apporter également. Non, mais c'est...
Non, fallait pas.
Mais bien sûr qu'il faut pour vous aussi. Mais bien sûr. Et puis, puisqu'en Shana Tova, on offre du miel et une pomme, voilà, nous vous souhaitons une année douce, paisible et prospère à tous égards.
Amen.
C'est ce que je souhaite.
Merci encore, Yaël. Hein. Et parents, éduquons nos enfants. Et en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Méditez à ce que nous avons entendu. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Sous tes